إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله عز وجل قراءتنا لشرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله جل وعلا. فبحمد الله عز وجل، قد ذكرنا في درسنا الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين، واختلف أهل العلم في تاريخ هذا اليوم. وذكرنا بحمد الله عز وجل أن الأصح أنه قد ولد اليوم الثامن من ربيع الأول، فيوافق كما قال الشيخ العتيبي حفظه الله يوافق يوم السادس عشر من نيسان، يوم السادس عشر من نيسان أي إبريل عام الفيل الموافق لعام 571 من ميلاد عيسى عليه السلام. Donc on avait mentionné la semaine dernière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, et les savants ont divergé sur la date de ce lundi. Donc certains ont dit le 12, d'autres ont émis l'avis qu'il est né le 10 du mois de Rabi'in al-Awwal. Mais on avait vu que par rapport aux preuves, la parole la plus correcte est qu'il est né le 8 de Rabi'in al-Awwal, du mois de Rabi'in al-Awwal, ce qui correspond donc en vérité au 16 du mois d'avril selon le calendrier yani solaire, au mois d'avril, le 16 du mois d'avril, l'année de l'éléphant, qui correspond par rapport au calendrier solaire et par rapport à la naissance de Isa alayhi salam, comme ils le prétendent, correspondrait cela à l'année 571 du calendrier solaire. جيد. فهذه كانت الحادثة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الناظم. Donc ça, c'était le premier événement mentionné par l'auteur, ici Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. Al-Hadithat al-Thaniya, كانت وفاة أبيه عبد الله ابن عبد المطلب. Et le deuxième événement qu'il a mentionné, l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est le décès de son père, Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Taïeb, il en avait mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère lorsque son père est décédé. Taïeb, فَيُتْمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذكره الله في القرآن فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Il a dit, Allah tabarak wa ta'ala, il a mentionné justement la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donc est né en étant orphelin, ou était orphelin alors qu'il n'était encore que dans le ventre de sa mère. Donc c'est vraiment le plus haut degré de l'état d'orphelin. Jayyid. Donc il dit Allah subhanahu dans le sens rapproché, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli, ne t'a-t-il et il t'a trouvé dhalan, on avait dit que dhal, c'est-à-dire ignorant de la charia, de l'islam, de la prophétie, etc. Et il t'a guidé et il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Non. فنواصل بعون الله عز وجل قال الناظم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه. نعم. فقال المؤلف رحمه الله وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فقال بعد عامين أي بعد أن أكمل عامين من مولده صلى الله عليه وسلم غدا أي أصبح أو صار فطيما. وفطم الصبي هو فصله من الرضاع. وفطم عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم الرضاعة حولين كاملين كما قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فجاءت به مرضعه سليما أي جاءت به مرضعه إلى والدته في مكة سليما معافى ليس به آفة ولا يشكو من علة في صحة طيبة وبنية حسنة ونشأة قويمة. حليمة هي بنت أبي ذؤيب السعدية مرضع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في إسلامها وإسلام زوجها لأمه أي في مكة. نعم. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل. Il dit l'auteur Ibn Abi al-Izz الحنفي رحمه الله تعالى بعد عامين après 2 années, c'est-à-dire après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 2 années après la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rada, c'est-à-dire il est devenu. Il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu à cet âge-là? Fatima, c'est-à-dire c'est devenu un enfant qui a atteint l'âge du sevrage. Il a atteint l'âge du sevrage. Voyez? Donc, il ne peut plus, yani, se contenter du lait. D'accord? Donc, il a dépassé les 2 années ici. D'accord? Donc, Fatmu Sabi, le sevrage, c'est l'état du bébé, hein, qui fait que il n'est plus uniquement nourri au lait. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été sevré donc après la fin de ces 2 années. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, dans le sens rapproché, il a dit: et les mères, hein, si elles désirent compléter l'allaitement, eh bien qu'elles allaitent leurs enfants 2 années entières. 2 années complètes. Taïeb. Puis il dit, جاءت به مرضعه سليما. مرضعه, c'est-à-dire sa nourrice. La femme qui l'a allaitée, elle l'a amenée. Et à ce moment-là, il était donc salim, c'est-à-dire en bonne santé, sain et sauf. Taïeb. Donc, sa nourrice l'a amenée à qui? À sa mère. À la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Amina, Amina bint Wahb, à la Mecque. Et quand elle l'a ramené à sa mère, il était donc en bonne santé. Et il se portait très bien, alhamdulillah. Jayid. Donc il n'avait aucune maladie, il ne se plaignait d'aucune anomalie, il avait très bien grandi physiquement, très bien formé, et avait eu donc une éducation, yani, saine. Donc, sa nourrice s'appelait elle Halima. Halimatu bint Abi Dhu'aib al-Sa'diyya. Ça, c'est le nom d'une de ses nourrices. Parce qu'on verra après, Inch'Allah Ta'ala, qu'il a eu d'autres nourrices. Donc, parmi ses nourrices, Halima bint Abi Dhu'aib al-Sa'diyya, du clan de Sa'd. Donc, la nourrice du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont divergé sur l'islam de Halima. Certains ont dit qu'elle a embrassé l'islam. D'autres, na'am, ont dit que non. Et également sur l'islam de son époux. Allahu a'lam. Donc elle a ramené à sa mère, c'est-à-dire à Mecque, à la Mecque. Donc après l'avoir allaité pendant ces 2 années, ou pendant cette période, elle a ramené à sa famille, les ahliha. Taïb. Wa adat hamilat li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Non. Et après donc, après l'avoir ramené à sa mère, elle l'a gardé avec elle et elle l'a ramené chez elle. Donc elle a gardé quand même avec elle, avec l'autorisation de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a gardé le prophète auprès d'elle car il lui plaisait beaucoup et car elle l'a vu en lui un bien énorme, la baraka. Le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant bébé soit à ses côtés en tant que bébé, elle a remarqué des barakas, des bénédictions énormes par sa cause, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu par sa cause, par sa simple présence, des choses étonnantes qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Taïeb. Naam. Parmi tous les bébés qu'elle a allaités, parmi tous les bébés qu'elle a allaités, le seul bébé qui lui a fait voir des choses, Eh bien, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au niveau des bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendait par sa simple présence. Donc, lorsque elle a ramené Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, elle voulait donc, elle avait déjà l'intention de convaincre sa mère, hein, afin qu'elle puisse le garder auprès d'elle pendant une période plus longue. Hein, qu'elle rallonge la période du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demeure auprès d'elle. Il a été rapporté dans certaines narrations, hein, le fait qu'elle aurait dit à sa mère que le climat de l'endroit où elle habite, Halima, hein, donc elle n'habitait pas à Mecca, d'accord, elle n'habitait pas en ville, elle habitait dans un endroit éloigné, désertique. Donc elle lui a dit que le climat de l'endroit où elle habite, c'est un climat qui est sain, qui est bon. Et qu'elle avait peur que s'il reste avec sa mère à la Mecque, eh bien qu'il soit atteint par des maladies ou des épidémies ou autre que cela. Donc, alhamdoulilah, elle a réussi à la convaincre, Jayid, et donc la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté, par compassion pour lui, par compassion pour son bébé, elle a accepté que Halima le garde auprès d'elle. Et donc elle est retournée avec lui, yani li ahliha, à sa famille, kama aradat, comme elle avait déjà l'intention de faire avant d'aller voir la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama aradat ay anna hadha shay kanat turiduhu asalatan indama ja'at bihi la ummi. D'accord, comme elle le voulait, c'est-à-dire que c'était une chose déjà qu'elle avait l'intention de demander à la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذن هذه كما قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى هذه هي الحادثة الثالثة أي رضاعته في بني سعد فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما ثم خلفتها عليه ثويبة مولاة أبي لهب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من بني سعد ويقال لها كما قلنا حليمة بنت أبي ذؤيب وكانت العرب ولا سيما قريش تبتغي لذراريها مراضع ينأون بأبنائهم عن وباء القرى فإن القرى ومنها مكة كانت تغتالها الأوبئة لكثرة من يرد عليها فإن البوادي يقل قاصدها وأما الحواضر من القرى فإن الناس يترددون عليها فيتجدد بوفودهم أوبئة في تلك المحال وكانت مكة من أكثر بلاد العرب وفودا فيأتيها الناس مرة بعد مرة لتجارة أو عمرة أو حج فكانوا يبتغون استرضاع أبنائهم في غير مكة وكان من أحسن المحال القريبة منهم بلاد بني سعد في نواحي الطائف. جل الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى. Donc ça c'est le troisième événement mentionné par l'auteur, rahimahullah. On avait dit le premier événement mentionné, la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a vu. Le deuxième, la mort de son père, Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Et le troisième événement ici, l'allaitement. L'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez le clan de Sa'd. Donc la mère du prophète, Amina, elle a allaité quand même. Elle a allaité Annie pendant plusieurs jours. Puis par la suite, une nourrice a remplacé sa mère. Elle s'appelle Thouaïba. Thouaïba, l'esclave affranchi de Abi Lahab. Thouaïba, Maulat Abi Lahab. Donc, la deuxième femme qu'il a allaitée après sa mère, c'est cette femme-là, Thouaïba, Maulat Abi Lahab. Donc elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un certain temps. Et c'est là qu'après ça, après elle, il a été donc envoyé à une femme de la tribu de Sa'd, comme on a dit, qui s'appelle Halima bintu Abi Dhu'aib. Bintu Abi Dhu'aib, Halima. Donc les Arabes avaient pour habitude, en particulier Quraysh, le clan de Quraysh, et qui désiraient fortement pour leurs enfants, les nouveau-nés, des nourrices. Des nourrices qui leur permettaient d'éloigner leurs enfants des maladies de la ville. Des maladies de la, que l'on retrouve souvent dans les villes, là où il y a beaucoup de monde. Hein? Et donc Mecca fait partie de ces villes-là. Fait partie de ces villes-là qui pouvaient être touchées donc régulièrement par des maladies ou des maladies contagieuses, des épidémies même, à cause du nombre important des gens qui vont et qui viennent dans ces grandes villes telles que Mecca. Alors que les endroits désertiques, le désert, la campagne, au contraire, il y a moins ou peu de gens se rendent dans ces endroits-là. Alors que Al-Hawadir, c'est-à-dire les endroits urbains ou les villes telles que Mecca, les gens s'y rendent, vont et viennent, d'ailleurs, et donc du coup, cela fait que les épidémies, les maladies se succèdent et apparaissent de manière régulière. Et de plus, Mecca fait partie des villes des Arabes à l'époque et jusqu'à aujourd'hui où il y a le plus d'allées et venues, où il y a le plus de voyageurs, de gens qui y vont, notamment pour le commerce ou pour l'Umra ou pour le pèlerinage. Et donc les Arabes voulaient donc fortement faire allaiter leurs enfants dans un endroit extérieur de Mecca, extérieur à Mecca. Et donc parmi les endroits, les meilleurs endroits proches de Mecca, mais qui se trouvent dans des endroits désertiques où il y a peu de gens qui s'y rendent, et bien justement les contrées de Bani Sa'd, les contrées qui dans lesquelles habitaient le clan de Sa'd, donc, qui se trouvait, il dit les cheikhs, aux alentours de Ta'if, aux alentours de la ville de Ta'if. Fadafa'at Umm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bihi ila Halimata liturdi'a. Fakanat thalithata murdi'atillah. Wa asahu al-akhbari anna radha'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam inhasara fi ha'ula niswa al-thalath. Fal-ula ummuhu. وثانية ثويبة مولاة أبي لهب وثالثة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وكان أكثر رضاعه منها فبقي في كنفها حتى بلغ سن الفطام وهو الفصل عن الرضاع لما تم له عامان. طيب دونك la mère du prophète صلى الله عليه وسلم a donc envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Halima afin qu'elle l'allaite. On a dit après qu'il fut allaité par Thuwayba. Par Thuwayba, Mawlat Abi Lahab. Il a été envoyé à Halima afin qu'elle l'allaite. Donc ce fut la troisième femme qu'il a allaitée. Jayyid. Et donc ce qui est le plus authentique à ce sujet-là, c'est que l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à ces trois femmes-là. La première, sa mère, Amina, bint Wahb. La deuxième, Thuwayba, Mawlat, Abi Lahab. Et la troisième, Halima, bint Abi Dhu'aib, Sa'diya. D'ailleurs, et celle qui l'a le plus allité, eh bien c'est la troisième, c'est-à-dire Halima, bint Abi Dhu'aib. C'est la femme qui l'a le plus allité. D'ailleurs, donc il est resté sous sa responsabilité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge du sevrage, qui est donc le fait que le bébé n'est plus uniquement au lait lorsque il a donc complété les deux années d'allaitement. فجاءت به أي حليمة معافا سليما إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم والتمست منها أن تستبقي عندها
لأنسها به وشهودها الخير والبركة في مقامه عندها، فحسنت لأم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع به مرة أخرى إلى بادية بني سعد حفظا له من وباء مكة، من وباء مكة. فطابت أم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسا، ورجعت به حليمة إلى بادية بني سعد. دونك comme on a dit, elle a ramené au bout des deux ans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa mère. Donc il était en très bonne santé, mashallah. Et elle a donc demandé, sollicité sa mère afin qu'elle puisse le garder auprès d'elle. Car, comme on a dit, elle l'aimait énormément et elle avait vu aussi énormément de bien de par sa présence, énormément de baraka, n'est pas la cause de sa présence auprès d'elle, auprès de la tribu de Saad. Et donc elle a convaincu, elle a fait comprendre à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait été bien qu'elle le garde avec elle et qu'elle le ramène encore une fois à l'endroit ou la localité dans laquelle vit la tribu de Saad afin de le préserver de quoi? Des maladies, des épidémies qui pouvaient se trouvait à Mecca. Jayid. Et donc, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été convaincue et a accepté. Et c'est comme ça que Halima, elle a ramené avec elle, encore une fois, le prophète, yani, qui avait donc 2 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala al-muallif rahimahullah wa al-nadhim, rahimahullah. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. فذكر هنا رحمه الله تعالى حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، وأن ذلك كان بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه، وقيل إن ذلك كان بعد أن أتم 4 سنوات من عمره صلى الله عليه وسلم. Puis dit donc l'auteur rahimahullah ta'ala dans le sens de sa parole, et après 2 mois il y a eu l'ouverture de son ventre, inshiqaq batnihi, et certains disent après 4 mois, après 4 ans yani, il y a eu cet événement-là qui est l'ouverture de son ventre ou sa poitrine. D'accord? Donc l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, il a mentionné l'événement de l'ouverture de sa poitrine. La poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première ouverture. D'accord? La première scission. Parce qu'il y en a eu plusieurs, on le verra après, inshallah ta'ala. Et donc il dit cela s'est passé 2 mois après que Halima a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'elle, après le sevrage. 2 mois après que Halima a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Certains disent cela s'est passé ou s'est déroulé lorsque le prophète il avait 4 ans. Lorsqu'il avait à peine 4 ans. Non. Donc, dans le premier avis, 2 mois, ça voudrait dire qu'il avait seulement 2 ans et 2 mois. Alors que, dans le deuxième avis, il avait 4 ans quand cela s'est passé. Al-Muhim, Rawa ibn Ishaq, rahimahullah, an nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qalu lah, ya Rasulallah, akhbirna an nafsik. Qala na'am, ana da'watu Abi Ibrahim alayhi salam. وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير وإسناده جيد قوي.
نعم. في سيتيسي للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى يجي ابن إسحاق رحمه الله أغابوكتي ابن إسحاق رحمه الله تعالى a rapporté donc Ibn Ishaq parmi les mashayikh de Sufyan al-Thawri رحمه الله. Il a rapporté d'un groupe des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc plusieurs compagnons ont rapporté ce hadith jayyid et ils ont dit au messager d'Allah akhbirna an nafsik akhbirna an nafsik, informe-nous sur toi, donne-nous des renseignements sur toi. Et là, il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, na'am, oui. Il a dit, je suis l'invocation de mon père Ibrahim, alayhi salam. C'est-à-dire que, il est, yani, parmi les exaucements d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, qui a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, donc que vienne un prophète parmi eux. C'est pour ça qu'il dit ici je suis l'invocation, je suis yani, l'exaucement de l'invocation de Ibrahim alayhi salam, puis Bushra de mon frère Isa, et je suis une bonne annonce de mon frère Isa. Donc Isa alayhi salam avait annoncé donc aux gens la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa, il a dit, et ma mère a vu, lorsqu'elle était enceinte de moi, qu'une lumière est sortie d'elle. Qu'une lumière est sortie d'elle, et par laquelle les palais ou les habitations du Shem ont illuminé. Donc, les savants ont eu plusieurs avis sur ça. Certains disent qu'elle a vu cela en rêve. Elle a vu en rêve, donc, alors qu'elle était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une lumière est sortie d'elle et elle a vu les palais du Shem, donc illuminés. Certains ont dit que les régions du Shem se sont vues purifiées et nettoyées du polythéisme. Et on m'a fait allaiter dans la tribu de Sa'd ibn Bakr. Et alors que j'étais avec un de mes frères, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de frère de sang, mais il avait des frères de lait. Donc là, alors il dit que j'étais avec un de mes frères de lait derrière notre maison, pendant que nous surveillons des bêtes, les agneaux, les petites bêtes des moutons, etc., les enfants des moutons. Lorsque deux hommes sont venus à moi, ils avaient des vêtements blancs et également des récipients, des grands récipients en or remplis de neige. Deux hommes habillés en blanc sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jayyid, donc il était encore enfant, certains ont dit qu'il avait 2 ans et quelques, d'autres 4 ans, ils avaient des récipients en or dans lesquels il y avait de la neige. Puis il dit, fa'akhadhani, ils m'ont attrapé et m'ont ouvert le ventre. Et ils ont sorti mon cœur. Jayyid, et ils l'ont ouvert. Ils ont ouvert mon cœur et ils ont sorti de mon cœur alaqa, un morceau de sang noir.
un morceau de sang noir et ils l'ont jeté. Puis ils ont lavé mon cœur ainsi que mon ventre avec cette neige. Avec la neige qu'ils avaient, ils ont lavé mon cœur et mon ventre jusqu'à ce qu'il ait purifié, nettoyé. Ensuite, l'un des deux hommes a dit à son compagnon, pèse-le. Pèse-le par 10 individus de sa communauté. Puis il dit, ils m'ont pesé et je faisais le poids de ces 10 hommes. Ensuite, il a dit, c'est-à-dire l'un des deux, hein, donc c'était des anges, hein, les deux c'était des anges, l'un des deux anges a dit à l'autre, pèse-le par 100 personnes de sa communauté. Ils m'ont alors pesé et je faisais leur poids. Ensuite, il a dit, pèse-le par 1000 hommes ou par 1000 individus de sa communauté. Puis il a dit, ils m'ont alors pesé et je faisais leur poids. Et là, l'un des anges, il a dit, laisse-le par Allah, si tu le pèses avec toute sa communauté, il fera leur poids également. C'est-à-dire au niveau des actes, au niveau des œuvres, hein, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses œuvres à lui équivalent aux œuvres de toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sa chaîne de transmission, elle est bonne, elle est forte. Également, l'imam al-Albani, rahimahullah, a authentifié ce hadith. Et vous pouvez le trouver dans, notamment dans Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. فيشهد لهما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذأره يعني حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون وقال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط أو أثر ذلك المخيط في صدره صلوات الله وسلامه عليه وحادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم تكررت أكثر من مرة. Et le hadith que l'on a évoqué précédemment, il est confirmé, il est appuyé par d'autres hadiths, tels que celui qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Anas ibn Malik, رضي الله عنه, qui a dit que le messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, Jibril عليه السلام est venu à lui. Donc là, dans la version de Anas, on a la précision comme quoi l'un des deux anges était Jibril, alayhi salam, alors qu'il était en train de jouer avec les enfants. Donc il était petit, le prophète a dit qu'il avait soit 2 ans et quelques, soit 4 ans. Et là, Jibril, alayhi salam, l'a attrapé, il l'a mis par terre, et il a ouvert donc sa poitrine, il a sorti son cœur, hein, il a ouvert son cœur, et il a sorti un morceau de sang noir. Et là, il a dit, هذا حظ الشيطان منك. Ceci est la part de Shaitan sur toi. Jayid. Puis il a lavé yani, son cœur dans un récipient en or avec l'eau de Zemzem. Puis il a remis son cœur yani, comme il faut. Hein? Les morceaux de son cœur, il les a remis les uns avec les autres. Et il a remis le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa place. Et donc les enfants, quand ils ont vu ça, bien sûr, ils sont allés voir sa nourrice, Halima. Et ils ont dit, Muhammad a été tué. Muhammad s'est fait tuer. Donc ils sont tous allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont trouvé, yani, vivant, mais avec une couleur, changé, hein, il était changé, sa couleur était changée, c'est normal, il était choqué. Donc Anas, radiallahu anhu, il a dit, je voyais encore les traces de El-Mikhiyat, les traces de la couture, hein, comme quelqu'un qui se fait opérer, hein, on voit yani, après l'opération, les traces de la couture. Vous voyez, de là où l'endroit a été ouvert, hein, et là où le fil et les aiguilles sont passés. Subhanallah, donc il voyait encore les traces de l'opération, entre guillemets, sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est l'événement qui concerne donc l'incision, l'ouverture de la poitrine noble de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'est passé plus d'une fois. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن شق الصدر وقع ثلاث مرات أولها هذا الذي وقع في طفولته قال فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان كما جاء في الحديث هذا حظ الشيطان منك. Donc il dit l'imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah fi Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, il dit que l'ouverture de la poitrine de Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est produite trois fois. La première, celle que l'on vient de voir, qui est arrivée donc durant son enfance. Hein, il a dit donc, et par cette cause, alhamdulillah, il a grandi dans le meilleur des états, c'est-à-dire dans la protection, la préservation totale contre le shaitan. De par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de manière totale du shaitan. C'est pour ça qu'il a dit Jibril alayhi salam, hada hadd ash-shaytan min. Ceci est la part de shaitan sur toi. Thumma waqa'a shaqqu sadri 'inda al-ba'th ziyadatan fi ikrami. يتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. Ensuite, la deuxième ouverture de sa poitrine, c'est celle qui s'est produite au moment où il est devenu un prophète. Hein, afin que Allah subhanahu wa ta'ala rajoute pour lui encore plus d'honneur. Jayyid. Et afin que ils reçoivent la révélation avec un cœur fort. Et dans le meilleur état de purification possible. Car il allait recevoir le message d'Allah. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait le préparer à cela. ثم وقع شق صدر عند إرادة العروج إلى السماء يتأهب للمناجاة. Ensuite, la troisième ouverture de la poitrine s'est déroulée lorsque donc il a voulu accomplir l'ascension au ciel. Le voyage nocturne ainsi que l'ascension au ciel afin qu'il soit prêt et prédisposé à parler avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, lors de cet événement grandiose qui est l'ascension. Jid. Fa fi subul al-huda wal-rashad li-salihi. Qal anna shaqqa sadrihi al-sharif takarrara arba'a marrat wa dhakara anna al-marrata al-thaniya huwa ibn 10 sinin salawatullah salamu alayhi. Il a été même rapporté dans notamment l'ouvrage de As-Salihi, Rahimahullah, qui est Subul al-Huda wa al-Rashad, qui a dit que l'ouverture de la poitrine noble de Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est produite quatre fois. Il dit que la deuxième fois, c'était lorsqu'il avait 10 ans. Donc si on résume, si on prend ces deux avis-là, et on dit que cela s'est passé quatre fois, la première fois lorsqu'il était encore, lorsqu'il avait 2 ans ou 4 ans, qu'il était auprès de la tribu de Sa'd, auprès de Halima bint Dhu'ayb. Il avait donc 2 ou 4 ans. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, ici, lorsqu'il avait 10 ans. La troisième fois, lorsqu'il est devenu prophète. Et la quatrième fois, lorsqu'il a fait l'ascension. Na'am, et qu'il a parlé avec Allah, subhanahu wa ta'ala. جيد. وقد كان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا وطيبهم سريرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وطيبهم نفسا ونعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. ثم أفرد فصلا كاملا عظيم النفع كبير الفائدة في ذكر أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم était l'homme le plus apaisé et avec les intentions les plus pures, le cœur le plus pur et le plus bon. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Zad al-Ma'ad, il dit que la voie, le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était d'appeler au bien, à la bienfaisance, à la charité, à tout ce qui est convenable. C'est pour cela que c'est la personne qui avait donc le plus de sérénité, le plus de tuma'nina, hein, de plénitude au niveau du cœur, de la poitrine, qui avait l'âme la plus bonne, le cœur le plus pur. Pourquoi? Parce que la charité, ou le fait de faire le bien, eh bien cela a des répercussions, a des effets étonnantes sur l'esprit de la personne, sur l'état d'esprit de la personne, sur la tranquillité, l'apaisement, la sérénité. Jayid? Et bien sûr, tu peux rajouter à cela le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a également descendu la sérénité sur lui, la plénitude, à travers la prophétie, à travers le message et tout ce qui tourne autour, hein, de la prophétie et du message au niveau des particularités. Voyez? Et également le fait que, comme on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu plusieurs fois sa poitrine ouverte de manière réelle, hein, de manière matérielle. Ce n'est pas une image ou un rêve, mais il a vraiment été, donc ici, il a vraiment vu son cœur purifié de manière matérielle, et le fait que les anges donc ont sorti la part de Shaitan sur lui. Jayid. Donc c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le cœur le plus pur et l'âme la plus bonne. Puis donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après ça, il a mentionné un chapitre entier qui est très bénéfique et comporte énormément d'enseignements sur les causes de l'ouverture de la poitrine, hein, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comment cela s'est passé et les résultats de ces choses-là, alhamdulillah azza wa jalla, de manière la plus parfaite. صلوات الله سلامه عليه. فبحمد الله عز وجل سنكتفي بهذا القدر ونواصل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.